Qu'est-ce qu'on déguste vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Orabastins. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Hola, hola todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Alors, c'est un qu'est-ce qu'on déguste exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui puisque nous sommes pour l'occasion confortablement installés au 133 rue Aristide Briand dans une très très belle cave voûtée, donc au sous-sol des Douceurs de Bacchus, une toute nouvelle boutique qui vient d'ouvrir Villebasse à Montauban dans le quartier Villebourbon et qui est tenue par Jérôme Harwell et Arnaud Boré. Donc c'est un qu'est-ce qu'on déguste spécial Douceurs de Bacchus. Avec une fine équipe, presque au complet, Pascal Olivier, bonjour.
Salut à tous.
Georges Bonfils, salut.
Bonsoir tout le monde.
Et Christophe Bory, bonjour.
Bonsoir Rémi, bonsoir tout le monde.
On a une petite pensée pour Gaël qui n'est pas des nôtres aujourd'hui. Et bien sûr, on félicite Aurélien d'assurer la partie la plus ingrate de cette émission, qui est la partie technique. Mais on le sait, hein, de temps en temps, ça ne
m'empêche
pas.
Mais on le nourrit, on le fait boire et on le nourrit.
De déguster avec nous pendant toute cette émission. C'est Jérôme Harwell et Arnaud Boré qui nous accueillent aujourd'hui. Merci de nous accueillir, Jérôme.
Oui, merci, bonsoir, merci d'être venu et bienvenue.
Eh bien, écoute, on est ravis d'être là, d'autant que déjà sur cette table, il y a un très joli plateau de charcuterie et une bouteille de vin que je te laisserai nous présenter dans quelques instants. Donc, les Douceurs de Bacchus, quand on a vu arriver cette nouvelle boutique, ce nouveau lieu, à Montauban, on a fait une nuit ni deux, on a dit tiens, ce serait bien d'aller les rencontrer.
Oui, surtout qu'ils nous ont nargué tout l'été parce qu'ils ont aménagé ça tout cet été et moi je voyais un coup ça s'ouvrait, un coup ça se fermait, un coup il y avait des vitrines frigo qui rentraient, un coup des bouteilles. Hein. Ça a duré quoi deux bons mois.
On se demandait ce que c'était.
Je disais, qu'est-ce que
et puis
c'est
on a eu quand même, on a eu des tuyaux parce que en allant manger
à la cantine de Proust.
Voilà.
On a eu le voile qui s'est soulevé puisqu'ils étaient juste derrière nous, la table juste derrière nous. Et c'est là qu'on a fait connaissance.
Voilà, ils nous ont été présentés par notre ami
Thierry Boisse de la cantine de Proust.
Effectivement. Chez qui on avait fait la même opération il y a deux ans maintenant, trois ans.
La même chose et il fait trois services par jour depuis qu'on est venu. Donc bon, ça, j'espère qu'on va croiser les doigts, mais ça devrait faire la même chose ici.
Pour vous décrire cette cave dans laquelle on est installé, c'est une cave voûtée avec la fameuse brique rose montalbanaise. Et partout, tout autour de nous, il y a des culs de bouteilles, des culs de bouteilles, des culs de bouteilles.
Des présentoirs de bouteilles, des bouteilles.
Voilà, des bouteilles.
Et des caisses de bois dessous.
Donc on vient ici chercher à déguster des bons vins. Et heureusement, on a Jérôme Harwell et Arnaud Boré qui nous... conseil en fait hein, sur ce que l'on peut acheter, puisque si j'ai bien compris et vous nous le direz tout à l'heure, aux Douceurs de Bacchus on peut acheter du vin comme dans une cave, mais déguster sur place également, acheter des plateaux de fromage et acheter des charcuteries et
ou les consommer sur place aussi.
Ou les consommer sur place également.
Tout à fait, c'est un multi-concept
que vous allez devoir nous présenter dans quelques
instants. Pas de problème.
C'est qu'est-ce qu'on déguste et ça commence comme ça. Traditionnellement, Jérôme Harwell, on démarre cette émission avec un verre de vin, et puis on trinque. On n'a qu'à se servir comme ça pendant la musique. Neath the stars, at bazaars, often I had to caress men. Don't be sad, I must add that they met me. No more than chessmen, 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 chessmen. How long has this been? How long has this been? Go
convient particulièrement à l'ambiance dans cette cave. Je trouve un morceau un petit peu jazzy. C'est Carmen McRae avec le morceau How Long Has This Been Going On, remixé par MJ Cole. C'est tiré de la compile Verve Remixé, qui consacre plein de morceaux, donc des classiques de jazz remixés par des producteurs
Carmen
actuels.
Carmen McRae, tu es une chanteuse de jazz.
Voilà. Carmen McRae.
Ça sort bien quand même, hein, ça.
Ah oui, oui. C'est remixé par MJ Cole, très bon producteur.
C'est plaisant.
Plaisant.
Qu'est-ce qu'on déguste? Spécial, les douceurs de Bacchus. Les douceurs de Bacchus, donc, c'est à Montauban, 133 rue Aristide Briand.
Et ça vient un petit peu avant la place Lalac, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où est l'avenue Aristide Briand.
C'est entre le
voilà,
donc entre le Pont Vieux et la place Lalac.
Entre le Pont Vieux et la place Lalac, tout à fait.
Jérôme Arouel et Arnaud Boré nous accueillent ici. Jérôme Arouel, Jérôme, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, expliquer le concept des douceurs de Bacchus, même si tout est dans le nom, quand même, ça mérite une explication.
Alors le concept, il faut bien comprendre la différence. Enfin, il y a deux espaces bien distincts. Il y a un espace boutique et un espace bar à vin. Donc dans le premier espace boutique, vous avez accès à des fromages fermiers, exclusivement fermiers, tous au lait cru. Vous avez ensuite des charcuteries fines, que des charcuteries sèches, exclusivement. Donc de la charcuterie de pays, de la charcuterie d'Auvergne, de la charcuterie de Bigorre, de Corse, de la charcuterie de Patrick Duller, de la Serrade près de Las Cabanes, pardon,
près de Cahors.
Près de Cahors. Et ensuite, nous avons des spiritueux, des vodka premium, des alcools blancs premium, tequila, gin, des rhums premium également, des whisky et également quelques alcools locaux. Comme l'Armagnac, hein, puisque on est quand même dans le pays de l'Armagnac, donc on a ce genre de produit également. Et toujours côté boutique, donc il y a un escalier qui emmène dans, on va l'appeler le sein des seins de la boutique, c'est notre cave.
C'est là où on se situe en ce moment.
Hein. Là où on se situe en ce moment et où on présente une offre de 350 références de vin, une offre dans laquelle nous avons voulu représenter au maximum les terroirs français, tous les terroirs français, c'est-à-dire qu'on part de l'Alsace à la Loire, la Bourgogne, le Sud-Ouest, le Languedoc, Bordeaux, la Champagne. On a vraiment essayé de représenter toutes les régions.
Et des belles références qu'on ne voit pas ailleurs.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est vraiment voulu. Comment on va choisir une? Comment on fait une cave à vin comme ça?
Alors nous, on est parti du principe que pour chacune des régions, on voulait déjà un petit viticulteur qui propose des bons produits à des prix accessibles pour tous, hein, donc avec un très très bon rapport qualité-prix. Et à côté de ça, dans chacune des régions, on a voulu présenter également un référent. Hein, j'ai toujours cet exemple de derrière moi, par exemple, il y a l'Alsace derrière moi. On a le domaine de la Tour Blanche qui propose des produits à moins de 10 euros qui sont de superbe qualité. Et à côté, on a Mark Rydenweiss qui est un des référents dans sa région. Donc pour chacune des régions, on a essayé de pratiquer de cette façon-là, hormis pour les petites régions. Mais sinon, pour la plupart d'entre elles, voilà comment on a construit l'assortiment.
D'accord. Du coup, vous pouvez peut-être nous parler de ce vin que vous nous avez mis dans nos verres, s'il vous plaît.
Alors ce vin, je suis parti sur un des référents justement de la région bourguignonne qui pour moi est Bouchard. Donc Bouchard, père et fils pour moi, est un des référents dans sa région. Donc je vous ai proposé un bonne du château premier cru à la dégustation pour accompagner la charcuterie, un plateau de charcuterie que je vous ai mis également à disposition, qui est la charcuterie noire de Bigorre, de monsieur Pierre Matéron, qui est lui à la Serrade, par contre, dans le Gers. Donc le Beaune, c'est un vin quand même plutôt. Donc c'est un 100% pinot noir, c'est un vin facile à boire, très gouléant, si on peut dire, et qui se marie parfaitement avec ce genre de charcuterie.
Le chin-chin, tiens. Alors, oui, fais tourner le plateau de charcuterie, ce sera super. Attention, c'est une ardoise, elle est lourde.
Sinon, l'ardoise va être lourde.
Hop, alors qu'est-ce que c'est que je prends? C'est de la Copa, ça. Hop.
C'est Copa ça. Bigorre.
Copa Bigorre. Allez,
Giorgio.
Alors,
très loin. Moi, ça va t'agresser les doigts, mais je vais du temps.
Et si on parlait un peu de votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené ici à Montauban? Vous n'avez pas l'accent d'ici, Jérôme Arouel.
Non, du tout, on est normands tous les deux. On est nés tous les deux dans le même petit village de Normandie qui s'appelle Neufchâtel-en-Bray. Donc un village avec un fromage en forme de cœur, je ne sais pas si vous connaissez. Qu'est-ce qui nous a ramenés ici? En fait, on s'est retrouvés par hasard sur Toulouse il y a environ 2 ans. J'étais amené sur la ville par une mutation professionnelle.
Qu'est-ce que vous faisiez comme métier?
Alors moi, je suis issu du milieu de la distribution agroalimentaire. La distribution agroalimentaire, on va dire, à plus grande échelle.
Ce que j'appelle la grande distribution.
La grande distribution, la distribution pour professionnels, pour les restaurateurs également, enfin le domaine vraiment de l'alimentaire. Et petit à petit, j'ai pris goût aux bons produits.
Dans l'agroalimentaire.
Tout à fait, dans la distribution en général.
Ah, dans la distribution.
Dans la distribution.
On peut prendre goût aux bons produits. Donc.
Oui, en travaillant auprès des restaurateurs.
Chez Metro, par exemple.
Par exemple, donc en travaillant auprès de certains restaurateurs exigeants, on peut s'amuser à leur trouver des produits un peu exceptionnels et du coup, bah, on prend le temps de les goûter, ces produits, et petit à petit, bah, de fil en aiguille, on devient, je vais pas dire difficile, mais on devient de plus en plus exigeant avec ce qu'on mange, avec ce qu'on boit, et de là est née une passion pour ces produits, tout simplement.
D'accord, donc c'est pas forcément antinomique, enfin ça s'oppose pas, grande distribution agroalimentaire et qualité de produit. On a toujours un peu l'impression,
oui.
On se dit tiens, quand on va aller dans un supermarché ou dans un restaurant de chaîne, on va pas spécialement trouver des bons produits quoi d'habitude.
Ça va être compliqué de trouver le genre de produit qu'on propose ici à la boutique, mais c'est par le biais de mon métier que j'ai appris à découvrir ce genre de produit justement.
D'accord, donc vous apprenez à déguster, vous prenez le goût des bonnes choses et puis...
J'apprends à les vendre auprès de mes clients restaurateurs, parce qu'il a fallu aussi parfois leur donner l'envie de découvrir des nouveaux produits auxquels ils n'étaient pas habitués, notamment dans le Nord, j'étais dans le Nord avant d'être ici, faire découvrir le porc noir de Bigorre à des nordistes, ça a été quelque chose, comprendre le prix de revient... d'un kilo de jambon de porc noir de Bigorre, pour eux qui n'étaient pas initiés à ça, ça leur fait un peu bizarre sur le coup.
Ouais.
Voilà. Autant ici, on est près de l'Espagne, on connaît le prix des bellotas, des choses comme ça, donc on sait que ce genre de produits ont un prix. Dans le Nord, il a fallu vraiment...
Le jambon fleurimichon, ça coûte pas si cher que ça.
Exactement, et il a fallu leur faire goûter, leur donner l'argument, leur expliquer comment les cochons sont produits, qu'un cochon, par exemple, de Bigorre, il a battu, lui, au bout de 15 mois et pas au bout de 8 mois, comme un cochon traditionnel. Donc forcément, les coûts de revient...
Mais rassurez-moi, dans le Nord... cette émission est aussi écoutée sur Internet. Donc, amis nordistes, on vous aime beaucoup. Il y a quand même des bons produits dans le Nord aussi.
Il y a aussi des bons produits.
Il y a le maroilles.
Ça fait un peu plus exotique. Il y a le maroilles, même en Normandie, on a des bonnes charcuteries. On a le saucisson du marin, par exemple, qui est un espèce de filet de porc séché que les marins emmenaient... autant jadis, quand ils partaient plusieurs mois en mer. Donc on a aussi des super produits de qualité.
Qu'est-ce qui vous a amené à Montauban précisément? Pourquoi se retrouve-t-on aujourd'hui rue Aristide Briand?
Montauban, tout simplement un de mes derniers jobs, c'était à Montauban, toujours dans l'agroalimentaire. Et j'ai vraiment adopté cette ville, c'est une ville à taille humaine. On est, comme je disais tout à l'heure avec Arnaud, on est origine de la campagne. J'ai vécu à Toulouse avant d'être à Montauban. Toulouse, c'est quand même, à mon sens, impersonnel. On peut rencontrer des gens le soir, on les retrouve pas forcément le lendemain. Que Montauban, c'est vraiment une ville à taille humaine. On peut facilement lier d'amitié avec des gens et je trouve ça beaucoup plus sympathique. C'est un peu la ville à la campagne.
Oui, mais alors pour un commerce, il y a moins de flux quand même, du coup, non?
Il y a certainement moins de flux, mais c'est un choix qu'on a fait. Il faut aussi avoir une qualité de vie à côté de son travail. Et il y a un équilibre à trouver. Pour moi, c'est hyper important. Quoi.
C'est un concept unique, par contre, pour Montauban. Un concept fromager, oui, on a charcuterie.
On a des bars à vin. Il existe encore une ou deux épiceries fines. Oui, oui, on a.
Côté italien, en fait, plutôt.
Simon. En face de chez Simon, à droite, les mille saveurs. Ça vient d'ouvrir. C'est assez récent. C'est pour ça que j'ai mis du temps aussi à le ressortir, parce que il y a eu des épiceries fines. Les épiceries fines, ça s'ouvre, ça se ferme, ça. C'est peut-être un concept difficile à tenir. Vous avez fait une étude de marché
Oui, on a fait une étude de marché. On a regardé ce qui se faisait sur chacun des secteurs, au niveau des fromagers, des charcutiers, au niveau des cavistes, au niveau des bars à vin. Donc on a fait un mix un peu de tout ça. Et on a estimé que notre projet pouvait trouver sa place à Montauban sans problème. On estime même que par rapport à ce qui existe sur ce secteur, sur ces différents secteurs, on vient plus en complémentarité qu'en concurrence frontale. Hein, c'est vraiment ce qu'on a voulu également dans le choix des assortiments. C'est pas forcément de faire ce que font déjà par exemple les cavistes pour notre cave, de faire ce que fait le fromager et de faire ce que font les charcutiers. On a voulu vraiment... amener des produits différenciants, amener une philosophie un peu différente de ce qui se fait pour être avant tout complémentaire que concurrent.
C'est qu'est-ce qu'on déguste, et notre verre est déjà vide, alors ça va pas du tout.
C'est tellement
on déguste,
bon.
Qu'est-ce qu'on déguste, une première pause avec, je sais pas, du jazz peut-être, Georges.
Oui.
J'adore quand t'as la bouche pleine.
Il tendait son verre et paf.
Mais je peux faire les deux en même temps, je tends mon verre et puis en même temps je vais vous parler d'un guitariste qui s'appelle Ronnie Jordan. C'est un guitariste anglais qui est d'origine jamaïcaine. Ses parents, il est né à Londres en 1962, mais par contre il est décédé il y a 2 ans, à l'âge de 52 ans, à Londres toujours. En 2014, il a eu un moment de gloire dans les années 90 parce qu'il a repris un morceau de Miles Davis qui s'appelle So What. Il avait fait un clip et ça avait fait un super tube mondial. Et ça lui avait permis de vivre pas mal de temps avec ce morceau. D'ailleurs, nous allons l'écouter. Il y a un son particulier, ça s'appelle So What.
Y avait sur ce plateau, tu nous le dis.
Alors donc sur le plateau de chez Pierre Matteron, on a le jambon forcément, hein, la partie la plus noble du porc noir de Bigorre. Nous avons du lomo, de la copa, du saucisson et du chorizo.
Alors Pierre Matteron,
donc yes. Pierre Matteron, c'est un paysan, on peut le dire comme ça, puisqu'ils sont paysans depuis 9 générations dans sa famille. Situé à la Serrade dans le Gers, et c'est une des personnes qui a œuvré pour relancer l'espèce porc noir de Bigorre à proprement dite il y a quelques années quand on n'en entendait plus beaucoup parler, quoi.
We'll be right back.
bonnet. Un peu de pruneau, pruneau loupi.
Et ce vin, alors, tu ne l'as pas présenté non plus.
Alors donc ce vin donc de chez Bouchard, le bon premier cru du château, donc c'est un 100% pinot noir comme je vous disais. Donc c'est un au final c'est un assemblage de 17 parcelles. Chacune des parcelles est mise en fût de chêne, élevée séparément et en finalité on fait un assemblage. Donc certains sont vieillis 12 mois, d'autres 18 mois. Ça dépend de la maturité de chaque raisin, de chaque parcelle, et on obtient ce vin qui est plutôt équilibré, parfumé, avec une tendresse quand même en finale qu'on a régulièrement sur les bonnes premiers crus.
C'est un bonbon.
Elle est bonne.
Le guitariste Ronnie Jordan dans le titre So What.
Et alors bonbonne, c'est... Pardon. Alors bonbonne. Ça fait partie, vous l'avez dit, donc des référents. Est-ce que tous les vins que vous présentez là, tous les produits que vous présentez, à un moment ou à un autre dans votre parcours, vous avez visité le domaine, vous avez rencontré les gens, vous êtes allé sur le terrain?
Oui. Le projet tel que vous le voyez aujourd'hui, j'avais déjà travaillé dessus il y a 3 ou 4 ans. C'est un projet dans lequel je voulais me lancer quand j'étais encore en Normandie. Donc j'ai travaillé 6 mois à fond dessus, j'ai voyagé un peu dans toute la France pour chercher des producteurs, chercher des contacts, donc ça m'a permis de rencontrer déjà du monde. J'avais laissé tomber à l'époque pour des raisons de sécurité de l'emploi entre guillemets, et donc là j'ai renoué un peu de contacts que j'avais eu lors de cette période. Et aussi quand on a lancé donc là les douceurs de Bacchus, j'ai relancé également les visites de vignobles, les visites de domaines, aller chercher des producteurs pour aussi avoir des comparatifs, pouvoir nous se faire une idée, pas forcément que une idée par rapport à l'étiquette. C'est hyper important de se rendre compte par nous-mêmes de leur méthode. Leur méthode de vinification, leur méthode de vendange, etc.
Ben, il faut pouvoir apprécier le produit et puis en parler après aux clients. Et quand on ouvre une boutique comme vous, des douceurs de Bacchus, soit le côté bar à vin ou le côté boutique ou le côté cave ici dans laquelle on est, effectivement, vous avez besoin aussi d'être nourri pour pouvoir nourrir le client et raconter l'histoire du vin. Parce qu'on sait, une bonne bouteille... On vend à la fois le produit qui est dedans, mais on vend le rêve qui va avec, et le rêve qui va avec, c'est le travail aussi du vigneron.
Tout à fait.
Et ça, il faut savoir. Toi, tu sais, hein?
Je savais.
La suite de Qu'est-ce qu'on déguste spécial douceur de Bacchus, après ça.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Fronton et des Côtes d'Olt. Vinovali, les vignerons d'Ovali.
Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. On est aux douceurs de Bacchus, c'est à Montauban dans le quartier Villebourbon, 133 rue Aristide Briand. On est installé dans la cave voûtée de cette petite boutique bar à vin cave qui est tenue par Jérôme Arouel et Arnaud Boré qui nous viennent de Normandie. Et ils ont débarqué chez nous là il n'y a pas très très longtemps, enfin même s'ils étaient quand même de passage hein, puisque Jérôme nous a dit dans la première partie qu'il avait été toulousain, même s'il n'a pas chopé l'accent. Et les voilà qui arrivent. Imaginez cette aventure, vous ouvrez votre première boutique, parce que c'est la première boutique. C'est, vous nous avez dit tout à l'heure, Jérôme, qu'il y a déjà 6-7 ans, vous aviez commencé à travailler d'arrache-pied sur ce projet-là, vous l'aviez mis en stand-by.
Il y a quelques années, oui.
Et ça y est, là, aujourd'hui, ça fait une semaine et demie maintenant que vous êtes dans votre boutique, à vous que vous avez monté votre projet, voilà, votre votre avenir, il est là et nous on est au cœur de cet avenir là avec l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste. Quelle aventure !
Oui, complètement, oui. Hein? C'est vrai que mais c'est passionnant, super passionnant, le montage, rien que les travaux, ça a été hyper épuisant mais c'est passionnant de faire quelque chose comme on en a envie.
Tu sais où on est là, Pascal ? On est, il faut que tu, si on replonge, si on avait une machine à remonter dans le temps, tu vois, on serait nous tous là dans une espèce de jacuzzi, tu vois, ici.
Il y avait
un hammam en fait ici là. On serait dans un hammam, ouais, voilà. C'était un endroit où tu venais te faire épiler, quoi.
C'était un spa.
Ça tirait bien, Georges, de te faire épiler, tu vois.
Et là, faire masser, c'est mieux.
Et là, maintenant, donc, on est aux douceurs de Bacchus. Comment vous avez choisi ce lieu-là, Jérôme Orwell?
Alors, par rapport à l'étude qu'on avait faite, on a estimé une taille, enfin une grandeur, une superficie à avoir. Donc il nous fallait à peu près 150-200 mètres carrés. J'ai commencé à regarder ce qui se faisait en ville, dans le centre-ville, dans le, comment on dit,
dans le vieux centre,
dans la ville haute.
Dans la ville haute, ouais. Oui.
Voilà. En plus, dans l'étude de marché, j'avais vu que les cavistes, le fromager, enfin tout le monde était dans la ville haute.
Et dans la même rue,
j'ai pas trouvé forcément de locaux adéquats par rapport à ce qu'on avait besoin, de cave voûtée,
Vous aviez envie déjà de cette cave voûtée?
Oui, c'était.
C'était dans la. Vous l'aviez allé.
J'avais visité la cave voûtée en fait de comment ça s'appelle l'abbaye des Capucins.
Ouais, oui.
Et ils ont une superbe cave voûtée et c'est vrai que voilà, ça me donnait envie d'avoir un peu. Pas une si belle cave, mais avoir une cave voûtée, c'était l'idéal pour stocker le vin en plus, dans des bonnes conditions, et pour avoir un cadre, un charme vraiment sympa. Donc, en cherchant, je suis tombé sur ce local, donc à Villebourbon, et donc j'ai étudié un peu sa position géographique, on dira, par rapport à la zone de chalandise, par rapport à la ville. Commencer à compter le nombre de voitures qui passaient tous les jours devant. On a poussé.
Vous avez compté. Vous êtes posé devant.
On a poussé l'étude vraiment loin pour voir est-ce que ce local.
Et le nombre de visiteurs pour le marché du mercredi.
Le nombre de visiteurs pour le marché du mercredi. C'est un quartier qui vit le dimanche matin aussi. On est ouvert le dimanche matin. Au final, on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas Villebourbon. C'est un super super quartier. J'habite en plus le quartier. Et donc c'est plus pratique pour moi.
C'est moins cher que le centre-ville.
C'est moins cher au final au niveau du loyer que le centre-ville et c'est un quartier un peu populaire et
Beau quartier.
J'aime bien ce côté-là. Quoi. C'est ce qui m'a vraiment plu dans ce quartier. En plus il y a quand même autour de nous des bonnes affaires qui tournent. Donc il y a pas de raison quoi.
Il y a des restaurants, il y a tout.
Et puis il y a Martin, pas très loin encore.
Martin qui est là,
Monsieur Martin, oui.
Bourriol, pas loin.
Alors, Martin, il faut réexliquer, on l'a reçu dans Qu'est-ce qu'on déguste. Peux-tu,
oui,
peux-tu nous présenter Martin, vite fait, comme ça?
Ah oui, épicerie fine, le maître primeur depuis, ça fait un sacré paquet de temps qu'il est là. Très beaux légumes, bon chaud, des bons produits
et
aussi.
Qui nous avait fait déguster des tripoux à 18h à Qu'est-ce qu'on déguste.
Mais oui, c'était génial.
Les tripoux de chez Martin,
c'est quelque chose. Les tripoux de Nocelle.
Ah ouais, c'est clair. Alors, sur la table maintenant, grâce à Jérôme Arouel, on part en Corse, monsieur, dame. Et la Corse, eh bien... C'est quand même pas au départ le pays où on a envie d'aller manger de la charcuterie.
Oh là 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 là, oui, aujourd'hui, la charcuterie corse, méfiance, méfiance. Alors ça a toujours été un élément important de l'alimentation et de la culture corse. Bah, tiens, prendre un petit morceau de salsiccia et un verre de patrimonio, et ça c'est bon. Et traditionnellement fabriqué à partir de porc insulaire qui est du type Porciu nustrale. Mais... aujourd'hui, plus de 90% de la charcuterie corse ou dite corse est fabriquée avec des porcs qui sont importés soit de Bretagne, soit du continent, mais soit de Bretagne, soit d'Espagne, soit des Pays-Bas. La demande est telle suite au marketing de la charcuterie corse que dans charcuterie corse, il y en a plus beaucoup de la traditionnelle, de la vraie, de la bonne, faite avec ces porcs donc qui vivent en semi-liberté. Ils vivent dans le maquis, donc ils mangent des glandes, des châtaignes, un oisillon par-ci, des vers, des racines, du thym, ils vont brouter des tas de trucs, parce que le porc c'est omnivore, donc ils vivent, mais vraiment en semi-liberté ou en totale liberté, et puis un beau jour, au bout de 15-18 mois, on les appelle, ils les sifflent, ils arrivent, et poum, on les trucide, et on fait de la charcuterie. Alors, il y en a pas beaucoup. C'est moins de 10% de ce qu'on trouve sur le marché de la charcuterie corse.
Ils le gardent pour eux.
Et ben souvent ils le gardent pour eux ou comme ici, et ben on va aller le chercher parce que eux ils ont découvert, ils ont des petits filons comme ça. Ouais. Ils nous ont expliqué
parce tout à l'heure le problème justement, c'est aussi un des problèmes des AOC ou AOP, je sais plus comment on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher de la charcuterie sur le continent
ou de la viande fraîche
la travailler
sur place. on a une AOP derrière. Alors attention, l'AOP sur la charcuterie corse,
Jérôme, il dit que non.
La seule AOP que l'on a c'est le jambon sec. Le jambon sec corse, le prosciutto qui est une AOP. Après le reste on attend encore une appellation d'origine protégée
IGP, non
IGP ou une IGP, indication
sur les IGP, donc on autoriserait justement d'utiliser des porcs venus du continent.
Mais il faut pas
sur l'IGP. Par contre sur l'AOC, les cochons sont numérotés dès la naissance.
Donc il y a une différence entre l'IGP, c'est-à-dire l'IGP, on peut introduire.
Elle n'existe pas encore, c'est en pourparlers.
D'accord.
Sur l'AOC, par contre, il y a une véritable traçabilité qui est mise en place. Le moindre porcelet écrasé par la mère quand il est bébé, il faut vraiment des justificatifs, etc., pour prouver que le petit porcelet est décédé. Tous les cochons sont numérotés. Et effectivement, il y en a très très peu.
Donc là, sous nos yeux et dans nos bouches, sous nos papilles, on a d'excellents représentants de la charcuterie corse, le jambon prosciutto, le longu,
le lonzo,
la copa, le figatello, et ici un saucisson corse. Alors, il faut noter que tout ce qu'on entend comme charcuterie corse, c'est-à-dire les saucissons d'âne et les saucissons de sanglier, c'est une escroquerie de tous les diables. Ça n'existe pas traditionnellement dans la charcuterie corse. Le saucisson d'âne, Georges.
J'ai une histoire. Le saucisson d'âne, une fois j'étais en Corse, et dans un petit bistrot qui était en même temps charcuterie, il nous a fait déjeuner avec un charcuterie du cru. Et en discutant avec le patron, je lui ai demandé, et le fameux saucisson d'âne. Il me dit, saucisson d'âne en Corse, espèce de couillon. Tu crois que les Corses, ils sont assez bêtes pour tuer leur âne, et qu'est-ce qui va redescendre les châtaignes et le bois de la montagne?
Donc, saucisson d'âne, saucisson de sanglier, c'est vraiment des trucs industriels, fabriqués par des industriels, souvent en Corse, ou la plupart du temps en Corse, mais tirés par un marketing à tout va, mais ça ne vaut rien.
D'accord.
Les ânes, ils viennent d'Argentine.
D'Argentine, oui.
Les cochons... Pays-Bas, Bretagne.
Jérôme Arouel, du coup, présentez-nous, s'il vous plaît, l'origine de ce plateau de charcuterie corse.
Alors, donc, l'origine de ces produits, donc, c'est Pascal Scalbanchi, avec l'accent corse, qui est une petite productrice de porc nustral, donc les cochons noirs corses, qui est dans les montagnes, dans le sud corse, qui élève ses 150 cochons à l'année, tout simplement. Donc, elle les élève, comme disait Pascal, pendant 17 mois. Donc l'AOP, c'est 17 mois d'élevage minimum. C'est ce qu'impose cette appellation. Et elle fabrique sa charcuterie elle-même. Donc il faut savoir que Pascal Scalbanchi est...
Combien
150 porcs à l'année maximum. En plus, ils s'auto-limitent en termes de productivité. C'est-à-dire qu'elle, elle fait 150, elle n'en fera jamais un de plus. Et pour chaque producteur de porc nustral, il s'auto-limite comme ça à une certaine quantité pour rester justement avec des cochons élevés en liberté, avec du terrain. La Pascal Scalbanchi, elle doit avoir de mémoire 60 hectares. Pour ses 150 cochons, ils se promènent dans 60 hectares. Donc c'est assez énorme. Et elle est accessoirement en plus représentante de l'appellation d'origine contrôlée. Port Nustral. Donc on a une origine qui est vraiment certifiée. C'est vraiment une dame super sympa qui nous a donné la chance, hein, puisqu'on peut dire que c'est une chance, de pouvoir avoir ses produits. Et ça, je la remercie.
Et elle fait sa charcuterie de A à Z. Donc elle a ses cochons.
Elle fait elle sa charcuterie de A à Z, exactement. Donc elle fait le... Elle fait le prosciutto, donc le jambon, qui est en AOP.
Alors, il a une tenue en bouche, enfin, c'est super puissant.
C'est super puissant, ça a une note de noisette.
Et
je
ne
sais pas si vous avez vu cette note de noisette.
Et c'est long.
C'est hyper long, et c'est pas... Contrairement à des jambons de Bigorre ou des jambons espagnols, c'est pas du tout gras.
Non.
On voit très bien que les cochons, ils galopent toute la journée.
Mais il y a beaucoup de maigres. Et d'ailleurs, moi qui aime le gras dans le jambon, je suis obligé à chaque fois de prendre le morceau qui a.
Beaucoup de maigres, puisque ils font de l'exercice toute la journée dans la montagne. Hein. Quand ils se déplacent, c'est pas sur du plat. Et ils se nourrissent de tout ce qu'ils trouvent.
Il n'y a que les cochons qui bougent en Corse.
Et encore. Hors sieste.
Et donc ça. Ça fait partie des produits qu'on trouve dans votre vitrine quand on rentre dans votre boutique. Alors, vous allez nous présenter vos deux vitrines, la vitrine charcuterie tout à l'heure, mais d'abord, on en arrive à un petit peu de
musique.
Groove, s'il vous plaît.
Ah ben oui, mais du vieux groove. On se retrouve en 1966 avec le pianiste Mario Castro Neves avec son projet éphémère qui s'appelle Jovem Brasa. On écoute le classique Maskenada qui est signé au départ par Jorge Ben en 66. Je me transforme en Jorge un peu en ce moment.
Ouais.
Il faudrait pas du qu'on commence à présenter le vin sur la musique, tiens. Qu'est-ce que c'est, Lecce? C'est le petit vin corse.
Lecce,
pardon. Ah oui, le cheese, c'est pas du tout pareil. Allez, vous me présenterez après.
Le patrimoine. Un peu de saleté, ça, et le patrimoine.
Ça, c'est marrant, ce... Comment t'appelles ça?
Figatelle.
C'est tout petit, toute petite saucisse, ça fait graffe.
Normalement, ça se mange frais.
Voilà, frais au feu de bois. Sur...
Et ça se cuit, le figatelle.
Ah oui, ça se mange frais, normalement, et on les cuit. Et en fait, en fin de saison, ils les font sécher, et comme ça, ils en ont pour un peu plus longtemps.
Mario Castro Neves et le classique brésilien Maskenada.
Qu'est-ce qu'on déguste, monsieur, dame, aujourd'hui, spécial les douceurs de Bacchus. Les douceurs de Bacchus, c'est une petite boutique située à Villebourbon, dans la continuité...
Ça fait 200 mètres carrés, quand même.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est petit. C'est vrai que c'est grand.
Situé
dans le prolongement du Pont Vieux, direction Castelsarrasin, 133 rue Aristide Briand, à Montauban. Une idée, un bébé né de l'envie de Jérôme Harwell et de son compagnon dans la vie professionnelle.
Dans la vie professionnelle.
Arnaud Bourret.
Vous êtes rencontré comment?
Eh bien, on est né dans le même village.
Ah oui, mais vous êtes potes d'enfance et tout.
Ah oui, oui, on se connaît depuis qu'on a 9 ans. Ou...
Ah
oui,
d'accord.
Donc ça fait, comment t'as fait pour l'embarquer dans ton...
Eh bien, lui, il était déjà sur Toulouse.
Il était aussi dans la grande distribution.
Non, du tout, du tout. Il était sur un job complètement différent. Il était plutôt, il aimait les bonnes choses, épicurien, le bon terme. Et il rêvait d'avoir peut-être un jour, d'avoir un bar, un peu lunch. Et donc j'ai eu l'idée de mon projet. J'ai commencé à mettre sur le papier tout ce qu'il y avait à faire dans ce projet. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait largement la place pour une deuxième personne. Et j'ai pensé à lui, puisque c'était quelqu'un en qui j'avais 100% confiance. Et donc un beau jour, je l'ai appelé, je lui ai dit « Écoute, vas-y, viens, je vais t'expliquer un truc. » Et il m'a suivi, quoi.
Ah ouais, une histoire de pote d'enfance, quoi, de Normandie.
Ouais.
Quoi.
Ouais.
Je veux revoir ma Normandie. Ah.
D'accord. Donc Jérôme Harwell, Arnaud Boré sont les patrons des Douceurs de Bacchus. Le concept, c'est que c'est ouvert de 9h à 21h, c'est ça?
On est parti même sur du 22h.
D'accord.
Oui.
C'est ouvert. Avec la partie bar restauration.
Voilà, suivant s'il y a du monde ou pas, voilà. ça peut
Surtout
durer.
Surtout le vendredi quoi. Soir, le samedi, ça risque de durer un peu plus longtemps.
Disons qu'on ne savait pas trop sur quel horaire partir. Donc c'est vrai que le matin, on est plus sur les produits frais, sur le fromage, la charcuterie. Et l'après-midi, fin de journée, plus sur la partie cave à vin et bar à vin en soirée. Donc
il va falloir fermer de 13h à 17h. Quoi.
Oui, on va voir.
Pour la sieste. Et alors, comment vous accueillent les habitants de Montauban-Ville-Bourbon?
Ils sont super contents. Ouais. Ils nous accueillent. Voilà, à chaque fois, ils viennent nous voir, ils nous félicitent. Ils nous félicitent pour le lieu, pour les produits. Ils sont contents d'avoir un nouveau commerce dans leur quartier. Ça leur fait plaisir qu'on ait choisi ce quartier et pas forcément un autre. Et c'est vrai que ça donne du baume au cœur de se sentir accueilli de cette façon-là.
Alors une chose que j'ai remarqué, c'est vrai qu'en ville haute, il y a beaucoup de commerces qui s'ouvrent, il y a beaucoup de commerces qui ferment. Oui. Et par contre, en ville basse, il y a beaucoup de commerces qui sont ouverts. Il y en a très peu qui ferment finalement. Bon, le spa.
Et il y a de très bons commerces. On a oublié de parler tout à l'heure de la superbe pâtisserie Alio.
Bien sûr, il est à côté.
Le chocolatier, juste là, le meilleur chocolatier de Montauban.
Donc il y a un taux de fermeture, d'abandon de commerce ici en ville basse, à Villebourbon, qui est sans commune mesure. Enfin, c'est très peu par rapport au centre-ville. Très peu. Pourquoi je ne sais pas.
Il y a que le poissonnier qui tient pas. Il y a un poissonnier à nouveau ici ou pas?
Non.
Il y a plus de poissonniers. Mais il y a deux bons poissonniers sur le marché du mercredi.
Les gens sont plus fidèles peut-être. Il y a un esprit un peu village.
Peut-être, oui.
C'est vrai que Villebourbon, il y a un esprit village.
Tout le monde se connaît. Enfin, moi j'apprends à connaître ce quartier depuis quelques mois. Et tout le monde se retrouve au Marignan. On se voit, on se dit bonjour.
Ah, le jeudi soir, un jeudi par mois au Marignan, non,
c'est dernier jeudi de chaque mois, alors, il y a le repas du Marignan, le repas à 10 balles, où on mange bien, et vraiment, c'est...
Il faut que tu nous aies organisé.
Prochain jeudi, il faut venir. Il faut simplement dire à Martine combien on est, c'est tout. Voilà. Et c'est 10 balles. C'est 10 balles le repas. Ouais, et on mange bien.
J'aime bien les repas.
On mange bien au Marignan, c'est vrai, ça a été notre cantine pendant tout le long des travaux, et c'est un super endroit.
Est-ce que tu n'aurais pas une petite recette, mon petit Pascal?
Si. J'attrape mon livre. Alors, j'ai longuement hésité, puis je me suis dit, tiens, on allait faire un truc bon, pas cher et roboratif. Ça s'appelle le cric d'Écosse. Que le grand cric me croque. Non, le cric d'Écosse. Il nous faut quoi? 750 grammes de pommes de terre. Alors, de la pomme de terre, vous prenez de la vieille pomme de terre. Binge ou chose comme ça. 750 grammes de pommes de terre, sel, poivre, 4 gousses d'ail, du persil, 4 jaunes d'œufs, de la graisse d'oie ou de canard. On hache l'ail et le persil. Pardon, je suis en train de manger ma charcuterie corse. C'est vraiment trop bon. Voilà. Ça me restait... je vais avoir la longueur.
C'est pour ça que j'étais choisi pour cette chronique à ce moment-là.
Merci, parce que là, ils sont tous en train de manger, puis moi, je suis au boulot. Donc, cric d'Écosse.
Chacun son tour.
Merci. On hache ail et persil séparément, on épluche, on lave et on essuie les pommes de terre et on les râpe. Un peu comme un rosti. Donc on les râpe, on sèche encore au torchon. Il faut pas qu'il y ait d'amidon ou très peu d'amidon possible.
On râpe la
patate. On sale et on poivre et on réserve. On ajoute aux pommes de terre râpées l'ail et le persil que l'on a haché séparément. On met les jaunes d'œufs, donc les jaunes de 4 œufs. On oublie les blancs, on fera des petites meringues à part pour amuser les gosses. Et on mélange le tout, donc on mélange pommes de terre râpées, ail, persil, les jaunes, et on mélange le tout. On façonne des galettes, alors pour, avec 750 grammes de pommes de terre, je vais y arriver, on façonne à peu près 8 galettes à la main, et on les presse dans la pomme pour faire un peu comme des rostis. Et on les fait cuire doucement à la poêle, 15 minutes, alors à la graisse de doigt ou de canard. Une fois qu'on les a fait cuire 15 minutes, on couvre et on cuit encore 5 minutes. Et donc on a les criques d'Écosse, ça ressemble assez au rosti suisse, mais avec plus de goût, amené par la graisse de canard ou la graisse d'oie. Là, il y a le persil. C'est très très bon, ça coûte rien à faire. Un petit peu, vous mettez 10 minutes pour faire ça, et puis 15 minutes de cuisson.
Mais tu cuis ça dans de l'huile bouillante, quoi. C'est du gras,
non,
quoi.
Non, dans de la graisse d'oie, de la graisse de canard. À la poêle, on fait rissoler. On évite que ça accroche, donc on surveille, on met pas un feu trop vif. Il faut que ça cuise lentement, et on fera griller après, les 5 dernières minutes, on peut mettre le feu un peu plus vif, de façon à ce que ça soit bien grillé de chaque côté. Voilà, on retourne. C'est des galettes de pommes de terre, ail, persil, les pommes de terre râpées, et surtout ce qui est important, c'est qu'on sèche ces pommes de terre une fois qu'elles sont râpées pour enlever l'excès d'amidon. Ça s'appelle des criques d'Écosse, et moi j'aime bien parce que c'est vraiment sympa à faire.
Et tu peux te poser une question sur pourquoi on enlève l'amidon? C'est digestif,
c'est une question de digestibilité. Et parce qu'il y en a
c'est
trop.
Pas gustatif.
C'est comme pour les frites, lorsque tu coupes tes pommes de terre, tu laves tes pommes de terre, ensuite tes frites, tu les coupes, et ben, tu vas les sécher au torchon pour enlever l'excès d'amidon, sinon ça ne va pas frire, ou ça va très mal frire, et les frites vont rester molles. Donc on enlève l'excès d'amidon avec un torchon sec, on les sèche bien, il faut bien les sécher, parce que une fois qu'on les coupe...
Ah, c'est pour ça que chez Lulu, ils enlèvent pas l'excès d'amidon, c'est pour ça que les frites sont molles.
Peut-être qu'ils n'ont pas le temps de le faire, oui.
Quoi?
Philippe, si tu nous écoutes. Il déguste en ce moment d'ailleurs.
Mais non, mais
on a critiqué sa bière il y a 15 jours.
C'est vrai?
Ah bon, on a critiqué sa bière?
Oui.
Ah oui, le demi à 3 euros, ouais, non, ça c'est pas possible. Ah non, mais. Bah. Non, mais c'est bien, non, c'est chouette. J'ai eu une thèse. Le petit fourgon tollé là, avec la telon du lait, il l'a fait lui-même. Philippe, on t'aime. Domaine Leccia Patrimonio 2011. Alors attention, monsieur, dame, ce que vous avez dans votre verre, c'est un cépage 100%
Gnolo.
Gnolocchio.
Oui, du Gnolo, on appelle ça Gnolo. Hein? En abrégé, Gnolo. Ouais.
Gnolo, vous nous le présentez.
Le cépage du Patrimonio.
Donc, Domaine Leccia, donc en 100% Gnolocchio. Voilà.
Gnolo, en français, Gnolo. On est d'accord.
Oui, donc c'est un peu.
D'accord.
Donc c'est un patrimonio, donc Domaine Leccia est situé à l'extrême nord de la Corse, à l'est de Bastia, à 3 km de la mer. C'est Annette Leccia, ils sont deux Leccia à faire du vin dans le nord de la Corse. Il y a Yves Leccia et Annette. Il faut savoir que c'est des vignerons de père en fils. Le domaine a été séparé en deux lors du décès du paternel, et c'est Annette Leccia qui a récupéré quasiment la totalité du domaine familial. C'est des vignes qui ont à peu près une trentaine d'années, donc des pieds qui commencent à être un peu âgés quand même. Et ça nous fait un vin qui est très intense en fruits, qui a une très forte énergie finale, donc qui va très bien avec la charcuterie corse, qui elle-même est corsée, comme on peut dire.
Ouais.
Ça, il fallait le faire, hein. La charcuterie corse, elle est corsée.
En Corse dans le texte. Voilà. Tout à l'heure, elle était bonne, et maintenant, elle est corsée.
Et il y a à la fois également une finesse dans les tanins, qui est assez fabuleuse.
À noter que c'est le domaine Leccia Patrimonio, il est en AB, donc,
tout à fait,
biologique.
Oui.
Tout à fait. Vigne cultivée sans désherbant, ni produits chimiques de synthèse, vendange manuelle.
Oui, et ça rejoint ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que vous faites le choix dans votre cave ici, de proposer à la fois des vins de très petite production, hein, de producteurs comme celui-ci.
Tout à fait, oui.
Et des grandes vitrines, hein,
des référents également, des petits vignerons qui essayent de se casser la tête.
Combien ça coûte ça?
Alors là, on est sur le domaine Leccia, le Patrimonio 2011. On est aux alentours de 20 euros la bouteille.
Et le premier qu'on avait bu, le Bouchard...
Le Bouchard, le Bon, on était à une vingtaine d'euros également.
D'accord.
Voilà. Le premier prix qu'on va trouver aux douceurs de Bacchus est le dernier prix. Allez.
Donc le premier prix, on va être à 4,95. Donc pour... ça va être, on a par exemple le Cédrus de chez Le Cèdre, en 100% Malbec. Et on va avoir... On va avoir des Châteaux Yquem, des Bonnes Mares... des bonnes mares en Bourgogne.
Je vois 195 euros ici.
On a des Claude.
280 euros à ma droite.
Des Claude Baize. Voilà, on a quand même des choses assez fabuleuses.
On peut venir se faire plaisir. Quoi.
Oui, malheureusement, c'est vrai que ça a des prix un peu élevés. On aimerait que ce soit plus accessible. Mais voilà, par exemple, sur les Bourgognes, ils ont connu 3-4 années de catastrophes météorologiques avec de la grêle, des choses comme ça. Du coup. Bah, les cours ont quasiment doublé en 4 ans. Donc on se retrouve avec des vins de Bourgogne assez chers, quoi, c'est clair. Après, bah, sur des vins plus prestigieux, comme sur des Châteaux Yquem ou sur les cuvées en Champagne, on a des Ruinart, des dons Ruinart en rosé. Là, on est sur des cuvées d'exception, donc forcément à des prix... voilà, on peut
combien,
se faire,
combien,
on,
combien,
on,
combien.
On peut se faire plaisir.
Les 60, hein, ça va.
Hein,
60.
Non, il y a plus que ça.
Sur la Don Ruinart, on va être à 260 euros.
Voilà, 260 euros.
Après, c'est...
Est-ce que quand on rentre dans votre boutique, est-ce que si on a un petit budget, il faut qu'on ait honte?
Non, du tout.
Que ça arrive, ça. On se dit, oh ben non, c'est pas une boutique pour moi. Je vais pas y rentrer parce que tout est cher de toute manière.
Non, parce qu'on...
Et donc, je vais pas trouver un vin entre, comme vous avez dit, 4 et 10 euros, par exemple, parce que je veux amener sur ma table dimanche un vin entre 4 et 10 euros.
C'est, comme je vous disais au début, c'est comme ça qu'on a construit l'assortiment. C'est d'essayer d'avoir des petits producteurs qui proposent des vins vraiment de qualité à des prix accessibles à tous. Et on a aussi des bouteilles pour se faire plaisir, pour même des
moments exceptionnels aussi.
Même monsieur, madame, tout le monde, qui si un jour ils veulent vraiment se faire plaisir avec une très belle bouteille, bah ils pourront.
Merci.
La suite de Qu'est-ce qu'on déguste après ça.
Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, cave de Técou et des vignerons de Rabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Qu'est-ce qu'on déguste, la suite. Oui, je sais, vous me dites quelle chance ils ont, ceux-là, à chaque fois.
Non,
d'être
mais c'est un métier.
C'est un métier, monsieur.
Comme ça, tout le temps, et de déguster des belles choses chaque vendredi soir. Alors là, en plus, on est les rois du pétrole parce que on est invité par Jérôme Harwell et Arnaud Boré des Douceurs de Bacchus. C'est une petite boutique qui vient d'ouvrir.
Une grande boutique.
Oui. Une grande boutique.
200 mètres carrés.
200 mètres carrés, mais... c'est pas une petite boutique.
Mais ça reste. Convivial, donc on a l'impression que c'est petit. Alors qu'en fait...
D'accord. C'est toujours compliqué d'arriver à faire une introduction dans cette émission, surtout...
La dernière demi-heure.
La dernière demi-heure. La première demi-heure, j'ai jamais trop de mal à
présenter. Parce que 3 fois 13,5, ça commence à charger.
Mais la dernière demi-heure, c'est toujours beaucoup plus compliqué. On commence à se couper la parole. Il y a Pascal Olivier qui s'enflamme, qui parle la bouche pleine. Il y a Georges, mon fils,
qui parle de jazz.
Et qui parle de jazz et qui a un fromage dans son assiette actuellement. Si vous le voyez, messieurs, dames, il coule allègrement. Et donc autour de la table, il y a bien sûr Christophe Bory, il y a Aurélien qui s'occupe heureusement de faire en sorte que cette émission tourne rond, et Jérôme Harwell qui nous reçoit, et qui nous reçoit ô combien correctement, puisque là maintenant on passe dans cette troisième partie de dégustation avec un très très beau plateau de fromage qui est posé devant nous. Vous verrez ça, hein, sur notre page Facebook et puis sur le site internet cfmradio.fr, et un très très bon vin qu'il nous présentera dans quelques minutes. Mais d'abord, on va démarrer cette dernière ligne droite de Qu'est-ce qu'on déguste par une chronique de Christophe Bory sur...
On va s'intéresser à une machine infernale. On n'arrête pas le progrès, ou plutôt la déshumanisation de notre société, dans laquelle la notion de service a perdu beaucoup de sa superbe. En attendant que tes robots viennent prendre notre commande, hein, ça risque d'arriver, la société Fox Tender a imaginé un bartender automatique, à l'instar des distributeurs de café, de canettes, de chips, de sandwichs. Autrement dit, votre petit cocktail va être réalisé par un truc en ferraille. Donc, pour tous ceux qui ont vu le film Cocktail, avec Tom Cruise qui secoue la bouteille comme ça, qui la lance, qui fait ses cocktails. Nostalgie, nostalgie. En quelques secondes, la gentille machine sert le cocktail choisi par le consommateur, cosmopolitan, margarita, tout ce que vous voulez. Toutes les recettes habituelles sont fournies et les clients peuvent même régler la quantité de certains ingrédients s'ils le souhaitent. La machine est équipée d'un réfrigérateur, d'une interface pour régler l'achat immédiatement et d'une reconnaissance d'identité pour s'assurer que le consommateur a l'âge légal. Que de progrès ! Mieux encore, le bar automatique est également en connexion avec une application smartphone permettant aux utilisateurs de commander leur préparation via l'utilisation de crédit. Selon les créateurs, cette innovation est une avancée pour les consommateurs qui ne devront plus faire la queue au bar et jouer des coudes, hein, comme ça nous arrive, pour obtenir rapidement leur cocktail. Ils l'imaginent adapté au monde de la nuit via les clubs et les discothèques, mais aussi aux mariages, aux casinos ou encore aux soirées privées. La machine serait donc capable de préparer jusqu'à 400 cocktails sans aucune intervention humaine. Moi, je trouve ça quand même un peu tristouné. Hein. On n'aura plus la joie d'être servi par de belles serveuses. Mais d'un autre côté, ça va nous éviter d'avoir affaire à des fois à des gens de mauvaise humeur, à des serveurs mal lunés. Alors, en tout cas, ça existe.
Je signale qu'au début de la semaine, le Premier ministre, le ministre de l'économie, était au Japon. Et ont été accueillis dans une visite d'usine par un robot qui leur a parlé en français et qui les a salués, etc. Donc ils sont allés chercher des clones d'eux-mêmes robotisés de façon...
Monsieur Macron, bonjour.
Voilà. Et
c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que ce qu'on aime quand même, nous par exemple, dans Qu'est-ce qu'on déguste, la convivialité, c'est se rencontrer autour de ces verres, tiens, de trinquer, d'échanger autour des bons produits, de discuter. Et parfois, et même souvent, quand on va découvrir un restaurant ou un bar à vin comme ici, on est content de rencontrer Jérôme Harwell. On est content de venir rencontrer le personnage qui est derrière le bar. Or, c'est pas uniquement la machine. Donc, cette machine, peut-être que pour les nuits électroniques où la musique est très très forte, oui,
c'est intéressant. Pour les discothèques, pourquoi pas, parce qu'on n'a pas de contact de toute façon avec les serveurs.
Mais sinon, je trouve cette farce de vouloir absolument gommer l'humain dans la relation.
Tout automatisé.
Avec... C'est quand même super bizarre, quand même. Hein.
C'est triste.
Hein. Heureusement.
Ouais, c'est aussi efficace qu'une poupée gonflable.
Ah, ça ça, Georges. Alors, en douceur de Bacchus, Jérôme Harwell, il n'y a pas de machine.
Eh ben si. On en a une. Alors on a une qu'on a pas voulu justement automatiser. Hein. On avait le choix de l'option. Hein. Donc on a un distributeur de vin automatique avec 20 positions dans lesquelles nous proposons.
20 positions. 20 devant, derrière, en haut, en bas, à droite, à gauche.
C'est à peu près ça. Donc on propose une vingtaine de vins de référence de vin au verre. Cette machine nous le permet. Donc nous avons le choix de. Nous avons fait le choix de continuer à servir les clients. Hein. Il existe une option dans laquelle les clients peuvent... Donc, on leur file une carte.
On l'avait vu, Georges, rappelle-toi, à Air-la-Cave. Ils ont la même machine que chez vous. Air-la-Cave, c'est la cave de Leclerc à Roque-sur-Garonne. Et ils ont dans leur cave, effectivement, cette machine où on arrive avec sa propre carte et on se sert soi-même.
On se sert soi-même, voilà. Donc, nous, on n'a pas du tout pris cette option-là, puisqu'on veut toujours être le barman, le conseil. Voilà.
L'intérêt de la machine, c'est qu'elle maintient des bouteilles ouvertes sans air à l'intérieur, c'est ça ?
Tout à fait, en fait.
Et à température.
Et à température, donc au fur et à mesure que la bouteille se vide, l'air est remplacé par de l'argon, qui est un gaz complètement neutre et inodore. Donc on peut conserver du coup la bouteille à peu près 3 semaines. Sur des vins assez jeunes, on peut les conserver à l'aise 3 semaines. Et ça nous permet du coup de proposer un large choix pour nos clients.
Mais d'après ce que j'ai vu hier soir en pré-préparation de l'émission, des clientes...
Des jeunes filles, tu avais dit tout à l'heure.
Jeunes femmes. Des dames. Pommard par exemple au verre, elles en ont pris 2 ou 3 tournées. Donc ça, je pense que la bouteille de Pommard, elle va pas rester 3 semaines. Quoi.
Vous parlez de démocratisation, vous.
Ouais, tout à fait. Par exemple, là, on parle du Pommard. C'est vrai qu'une bouteille, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une bouteille à 70 euros. Grâce à cette machine, on a la possibilité de proposer des verres de pommard. Et chacun, bah, si une personne qui n'a pas les moyens de mettre 70 ou 80 euros dans une bouteille, bah, il peut s'offrir un verre pour 7 ou 8 euros. Et du coup, bah, goûter un très grand vin et se faire plaisir bah, autour d'un petit plateau de fromage. Ou de charcuterie.
Et ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. Oui. Parce que plein de gens se disent, mais en fait, à quoi ça a goût? Est-ce que ça vaut vraiment le coup?
Exactement, exactement.
Et beaucoup n'ont jamais goûté.
Beaucoup n'ont jamais pas goûté.
Beaucoup n'ont jamais goûté. Et donc là, on peut venir ici et on peut goûter parce qu'il y en a. À la machine.
Au verre. Et c'est la seule, le seul endroit à Montauban où on peut trouver ça.
Alors on propose pas que des grands vins, bien évidemment. On propose aussi de très bons petits vins à 2 euros le verre.
Un euro, t'as une merde. D'ailleurs,
Non. L'autre jour, on a préparé l'émission. La domaine de la Jeunesse, parce que quand on a préparé l'émission avec Georges.
On a beaucoup préparé cette émission.
On est venu boire un coup de domaine de la Jeunesse.
En 100% Viognier. Ouais,
voilà, qui est un très bon, vin
très
blanc.
Très bon vin. On est à 2 euros le verre. Et
voilà, la cantine de Proust, domaine de la Jeunesse.
Oui, voilà.
Donc, en gros, les verres vont de 2 euros à une douzaine d'euros. Sur des très grands vins, et voilà, et on espère même par la suite, pourquoi pas, proposer du Château Yquem à des gens au vert, qui a déjà eu la chance de goûter du Château Yquem, très peu de monde. Par contre, s'offrir quelques centilitres pour au moins avoir la chance de goûter une fois dans sa vie, pourquoi pas.
Georges, toi, le Château Yquem, toi.
Non, mais lui, c'est tous les dimanches.
J'en ai bu.
Vive les bars à vin!
Alors, ce plateau de fromage.
Ah oui, alors avant, effectivement, plateau de fromage, t'as raison.
Ce petit plateau de fromage. Pourquoi ces choix? Qu'est-ce qu'on a?
Alors, les choix ont été orientés un peu par le choix du vin. Hein, j'ai d'abord choisi le vin et ensuite j'ai choisi les fromages.
Ça, c'est délicieux, ça, ce truc.
J'avais envie de vous faire goûter un vin de la vallée du Rhône en blanc. Donc, le choix du Crosset Hermitage Domaine de la Roure de chez Paul Jaboulet en 2005. Et en fonction de ce vin, j'ai mis les fromages qui me semblaient pouvoir s'accommoder avec. Donc en fromage, on a un loup Larzac. Donc c'est un fromage pure brebis.
Ça, c'est terrible. Hein.
C'est terrible.
Et alors, avec justement...
Un brebis qui coule.
Avec le vin, mais c'est monstrueux.
Ouais,
quoi,
ça va très bien.
Complètement, ça va très très bien ensemble. On a un brebis des Pyrénées, plus classique. Ici au milieu, donc que vous pouvez accompagner soit avec de la pâte de coin... c'est une tuerie, c'est une pâte de coin faite avec des coins mûrs, chose qu'on ne trouve pas beaucoup aujourd'hui.
Je vais goûter pour voir si celle de Raymond, elle tient la maille avec à côté de celle de Raymond.
Donne-moi, parce que
vous serez pas déçus.
C'est private joke évidemment, mais Raymond, on pense à toi parce qu'on a un ami qui s'appelle Raymond et qui fait de la pâte de coin en direct live. Est-ce que vous êtes
J'ai pris un risque alors.
Fait pas mal, mais Raymond tient bien la route. Avec sa pâte de coin.
Ouais, Raymond est bien.
Ouais.
Mais celle-là est bien, hein. Pas de problème.
Ouais.
Ça pourrait être celle de Raymond.
Ça pourrait.
La tome de brebis qui est élaborée près de Hautacam par la famille Vergès. C'est une famille de
Hautacam.
Petits producteurs.
Hautacam dans les Pyrénées.
On est bien d'accord.
Dans les Pyrénées. Donc ensuite, on a le Menois. Donc le Menois, c'est un fromage que je voulais vous présenter.
Ah,
c'est
le Menois.
C'est une toute petite production. C'est un clin d'œil aux trappes des Chourniac. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un fromage de Dordogne qui est très réputé en Dordogne et qui a été très industrialisé au noix. On n'en trouve plus au lait cru, en fromage fermier. Et donc, c'est un petit producteur. Il a poussé un petit peu un coup de gueule. Il a voulu... Créer son fromage, mais un véritable fromage fermier aux noix.
Mais alors oui, parce qu'il n'y a pas de morceau de noix, il n'y a rien, mais par contre ça a un goût de noix, mais
c'est
d'une
un goût
puissance.
De noix, très très puissant. Ouais. En fait, c'est vraiment pour son petit clin d'œil au fromage.
Comment il fait ça? On sait, c'est un secret de fabrication.
C'est un secret de fabrication. Ils ont essayé, ils ont fait au moins une trentaine d'essais, je crois, de mémoire, avant d'arriver à ce résultat.
Ah, parce que c'est impressionnant. Hein.
Très bon.
T'as goûté?
Ouais. Original, ouais.
Énorme.
Et c'est vraiment un fromage fermier 100% lait cru.
Oui, parce que la particularité, c'est que ici, dans votre, sur votre étalage, on ne trouve que des fromages fermiers.
Tout à fait.
Ouais. Alors, il faut se l'envoyer avec un petit peu de confiture, là, ou quoi?
Plus avec le fromage de brebis.
Ah, d'accord.
La tome de brebis des Pyrénées.
Là, on a un gouda, non ?
Un gouda de Sérone. Alors là, c'est un fromage un peu particulier. On en connaît tous le gouda qui n'a pas de goût. Mmh. Hein, la pâte un peu blanche, qui peut forcément... c'est pas mauvais, mais ça n'a pas forcément de goût. La particularité du gouda de Sérone, c'est qu'il a été épluché. Donc on lui a ôté sa pâte un peu orangée. Et on l'a repassé à l'affinage pendant quelques mois. Et du coup, voilà, ça donne un fromage avec une pâte très jaune et très très goûtue.
Mais Sérone, c'est le roi du disco, non?
Et c'est le roi du fromage aussi.
Très bien, Sérone. Belle reconversion pour Sérone, qui nous sert un gouda magnifique.
Il mixe. Je le vois bien mixer avec un
Et le dernier, ben, on a Sainte-Maure.
Le Sainte-Maure-Touraine, donc de la ferme Malicorne. Donc,
fromage de chèvre, cendré.
Cendré, fermier des Pays de Loire. Et qui est absolument. Moi, je le conseille. Voilà, avec ce vin, ça va à merveille.
Je suppose, on va vers le sucré, là. On va vers des goûts de miel, des choses comme ça. D'ailleurs, ce vin
il a une robe.
Couleur de miel.
Il a une couleur un peu or clair.
Ouais, mais.
Très brillante.
Qu'on retrouve pas spécialement dans son goût. Ça va pas vers le miel, non, du tout.
Non.
Pas du tout.
Mais avec le fromage, oui, on va vers des sucrosités en bouche.
Oui. Surtout avec le gouda.
C'était quoi Sérone Qu'est-ce qu'il jouait Sérone?
Il faisait du disco.
Oui, mais.
Il y a plein de morceaux, il a produit Donna Summer, notamment I Feel Love.
Oh, c'est bien. Un producteur de gouda.
Et Ronnie Jordan.
Non mais. Là, il y a Georges qui bug parce que.
Il a la bouche pleine.
Il n'a plus de disque à passer.
Si, j'ai un disque à passer.
Mais c'est non.
Le guitariste.
Mais je te fais signe et tu m'as dit non, mais pas.
Si. Non, j'avais la bouche pleine, comme d'habitude, avec ce superbe fromage au noir de la Charente.
Non.
Dordogne.
Oh, Dordogne.
Ah, Dordogne.
J'étais pas loin. Charente-Dordogne, c'est pas très loin. Et là, nous allons écouter une composition de Ronnie Jordan. Il a découvert le jazz en écoutant un guitariste Wes Montgomery, dont il s'est inspiré. On le retrouve un petit peu dans ses chorus. Et là, le titre que nous écoutons s'appelle Show Me.
Santé. Merci, Jérôme, de nous accueillir dans ton bouclard, comme dirait Pascal Olivier, ouais. Aux douceurs de Bacchus, avant tout.
De manière si digne.
On trinque au Creux Hermitage. Paul Jaboulet Aimé, qu'est-ce que c'est que vous nous présentez?
C'est un domaine.
Alors, le Creux Hermitage de Paul Jaboulet, donc c'est un domaine de la Roure, c'est un petit domaine familial qui a été racheté par la maison Jaboulet il y a quelques années. C'est un cépage 100% Marsanne. C'est une vigne qui est orientée plein sud sur 2,5 hectares avec des cèpes de vigne âgés de 60 à une centaine d'années, jusqu'à 100 ans pour certains. C'est un, pour moi, un super produit avec une robe et une couleur or clair, brillante et limpide.
Mais et alors c'est des vins là, parce que celui-ci il a 10 ans.
Il a 10 ans, c'est une cuvée 2005, oui, tout à fait. Oui.
Vous, vous le vendez pour, vous en avez des plus récents qu'on va garder.
En fait, on essaye d'avoir aussi un mix avec des vins, des vins de ce style déjà prêts à boire et d'autres plus à garder. On essaye d'en avoir un peu pour tout le monde, comme on fait également bar à vin. L'idée, c'est aussi de pouvoir déguster des vins qui sont qui sont prêts à déguster. On peut pas proposer que des vins qui sont de 2012, 2013, 2014. Non, il nous faut aussi quelques anciens millésimes. Et...
Non, mais c'est pas ça... facile à trouver, les anciens millésimes, quand même.
C'est pas forcément simple. Après, il faut voir avec les maisons en direct ou les vignerons en direct. Ils ont tous un peu de stock. Donc, on peut toujours panacher. Je te prends 5 cartons de telle référence et tu me mets un carton de vieux millésime pour le côté bar à vin.
Déjà, on ne sait pas qui c'est qui doit désannoncer ce titre, si c'est Christophe ou si c'est Georges. Mais là, c'est Georges.
Oui, c'est moi, c'est du jazz, c'est Ronnie Jordan sur une de ses compositions. Mais tout à l'heure, je disais qu'il avait écouté Wes Montgomery, mais il a écouté aussi George Benson, et ça se retrouve dans ce titre.
J'aime bien vous sortir de temps en temps des petites enquêtes, surtout qu'après il y a des gens qui sont pas d'accord, tout ça, ça fait.
Alors,
ça
une petite
fait
enquête, débats. C'est une enquêquette.
C'est ça, une enquêquette. Oh,
voilà. Attends, je vais goûter cette petite confiture au piment d'Espelette pendant ce temps.
Un sondage Ipsos qui va t'intéresser par rapport à la composition de la clientèle des bars à vin, qui permet d'aller à l'encontre de certaines idées reçues. Alors qu'on s'imagine des consommateurs de vin davantage masculins, eh bien la clientèle des bars est majoritairement mixte, hein, selon 66% des gérants de bars à vin. Je ne sais pas si tu confirmes.
Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai qu'on a une tendance à avoir beaucoup de la gente féminine, plus que ce qu'on attendait.
Très bien.
C'est l'endroit où il faut draguer, les gars.
Voilà. De même, alors qu'on pourrait croire que le vin attire les seniors, eh bien non, la clientèle des bars à vin est majoritairement constituée d'actifs entre 30 et 45 ans pour 61%. Tu confirmes aussi, j'imagine?
Oui, oui, tout à fait.
Notons toutefois que les plus jeunes, moins de 30 ans, ne fréquentent pas ce genre d'établissement, ou rarement. Moins de 30 ans, c'est possible, on ne connaît pas encore le vin, mais ça va peut-être...
On boit du rosé pamplemousse.
On boit du vodka, des vodka toniques.
Et des, vodka, et des TGV, quoi. Voilà. Tequila, gin, vodka. Que nous, on n'a jamais bu.
Ah, jamais, jamais.
Jamais.
Mais les pas
jets,
ensemble.
Vodka jet.
Ni vodka jet, non, ni tequila, gin, vodka.
On n'a jamais fait ça,
ni
c'est
ensemble,
mal.
Ni séparé.
Vodka jet?
Jamais. Alors, trois principaux facteurs motivent la fréquentation des bars à vin. Les clients sont, d'une part, à la recherche de convivialité. Les bars à vin répondent donc à cette première attente. La clientèle est aussi avide de plaisir et de découverte. Là, on a encore bon. Les bars à vin comblent cette demande en lui proposant de déguster donc des vins de qualité, 45%, ou le faisant découvrir de nouveaux vins, de nouvelles saveurs pour 44%. Selon les gérants de bars à vin, ces envies de plaisir et de nouveauté seront à l'avenir toujours privilégiées par les consommateurs. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est aussi
c'est
faire découvrir.
C'est exactement ce qu'on cherche, c'est vraiment faire découvrir des choses aux clients. Quoi. Enfin, on prend un plaisir au quotidien de les emmener sur des choses qu'ils ne connaissent pas, et ça c'est excellent. Quoi.
Voilà, on y est.
Que ce soit sur le vin, et en plus, nous, on a la chance sur le fromage ou la charcuterie.
En plus. Oui.
Voilà, on prend vraiment un plaisir à leur faire goûter et qu'ils prennent du plaisir à déguster des bons produits.
Et ça doit être quelque chose de compliqué, c'est un challenge, parce que ça fait quand même quelques années qu'on voit de ci, de là s'ouvrir des bars à vin, soi-disant bars à vin.
Oui, tout à fait.
On met l'étiquette bar à vin et puis finalement, on se retrouve assez vite avec une dizaine de vins qui, plus ou moins bien, qui ont été sélectionnés. Mais on va tourner autour de ça parce
toujours
que
les mêmes vins aussi.
Parce que commercialement, ça va marcher. et que ça va s'arrêter là. Mais l'intérêt d'un vrai bar à vin, c'est de pouvoir continuer de faire des dégustations, de faire des découvertes.
Sinon, oui, de varier les plaisirs. Sinon, voilà. Nous, donc, on a une 20 références au verre. Voilà, le but du jeu, c'est les références, elles sont un mois maximum sur la machine. On va les faire tourner.
Est-ce
au
que
maximum.
Votre carte va tourner
complètement. Ouais. Donc là, côté bar à vin, on a une carte de 144 bouteilles. C'est un extrait des 350 références qu'on a dans la cave. On va les faire tourner, forcément. Et côté vin ouvert, on a 20 références qu'on va faire tourner, mais très très régulièrement. Une bouteille qui est vide, on se pose déjà la question de est-ce qu'on remet la même ou on en met une nouvelle. Hein, c'est ce côté-là qui est intéressant, c'est de pouvoir vraiment faire varier les plaisirs. Vivant, et que les clients, quand ils viennent, ils avaient un choix un jour et ils viennent une autre fois, ils n'ont pas le même choix. Et ça, c'est excellent.
Jérôme Harwell, c'est quoi vos objectifs et pourquoi Arnaud Boré n'a pas voulu nous parler ?
D'abord parce qu'il est avec des filles, ça arrête pas de rigoler au-dessus.
Ouais, non, il reste avec les filles.
Il fait le spectacle, il veut pas descendre du tout.
Il est en plein service, là, il est en plein, il est à fond.
Quels sont vos objectifs ?
Nos objectifs, c'est déjà de rendre viable notre affaire, hein, puisqu'on a mis, on a mouillé notre chemise, comme on dit. Hein, on a lâché nos vies professionnelles, tous les deux pour se lancer dans cette aventure.
Vous êtes en disponibilité ou vous avez lâché ?
Non, on a lâché. On a lâché parce que voilà.
La dispo, c'est pour les fonctionnaires, Rémi.
Non. Là, on a tout lâché. On s'est dit, c'est parti.
Moi, je ne veux pas me mettre en dispo. Aurélien.
On a 35 ans. moi, j'ai 36 ans. Arnaud, il a 39 ans. Bon, on s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Ouais. On se lance maintenant. On fait un truc où on va s'éclater tous les jours. Ou sinon, on continue notre boulot, notre petit train-train quotidien.
Vous saviez qu'avec votre boulot, vous aviez quand même
une sécurité,
des heures convenues.
Oui, bien sûr.
Alors que là, ça va être du 24/24 quand même.
Quand on est, on ne compte pas.
Hein. Non, mais quand on démarre une entreprise, on a du mal à
oui, bien sûr. Etc. Après, c'est le temps du démarrage. On espère pouvoir se libérer après du temps pour justement aller chercher des nouveaux produits.
Vous allez embaucher?
On espère. Le but du jeu, si on peut créer de l'emploi, ça serait l'idéal, c'est clair.
Demain, aux douceurs de Bacchus, on ne trouve plus ni Jérôme ni Arnaud derrière le bar, mais des salariés, non. Jérôme et Arnaud au bord de la piscine.
Non.
Ou alors à franchiser.
Ou à chercher des produits.
Ah.
À chercher des nouveaux produits, prendre le temps d'aller voir des fournisseurs, des viticulteurs, d'aller chez eux. D'aller rencontrer Madame Pascale Scalvanchi chez elle, hein, par exemple.
Quoi,
j'ai rencontré au salon de l'agriculture. J'aurais bien aimé aller la voir chez elle. Je vous ai raconté son histoire parce que je la connais, parce qu'elle me l'a raconté. Mais aller voir de mes propres yeux ces cochons gambadés dans la nature. Voilà, c'est juste.
S'il faut, elle vous a raconté des bars.
Mais non.
S'il faut.
Non, c'est la représentante de l'appellation d'origine contrôlée.
Oh, encore, il faut se méfier. Hein.
Et sérieusement, en plus, chaque produit est vraiment bagué, numéroté.
Ouais.
Quand on voit, donc on a trois produits en appellation, les trois sont numérotés. C'est vraiment une traçabilité. Je crois que c'est une des traçabilités la plus drastique dans les appellations d'origine contrôlée en France. Hein. C'est l'AOP Charcuterie Corse.
Eh bien, bravo Jérôme, bravo Arnaud, bravo pour votre projet qui démarre ici.
Merci.
À Montauban. Et bienvenue à Montauban, ville Bourbon, 133 rue Aristide Briand pour les douceurs de Bacchus. Merci de nous avoir accueillis avec toute l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste.
C'est vraiment bien.
Pour la réalisation de cette émission, de nous avoir ravi les papilles avec tous ces très bons produits. Goûté et validé par l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste.
On est bien d'accord
là-dessus. Estampillé Qu'est-ce qu'on déguste. Merci à vous, longue vie aux douceurs de Bacchus.
Merci.
Et à la prochaine.
Ouais. À bientôt.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste. Spécial douceur de Bacchus, cette émission que vous avez entendue sur CFM Radio, vous la réentendrez demain midi et elle est en podcast sur notre site cfmradio.fr.
Ça, c'était vraiment très bon.
Bon, les entrées étaient très bonnes.
Petite bulle pour finir. Parfait.
Moi, je m'en fous, personne.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste avec Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Aurabastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.